8. Le cimetière s'étendait sur plus de 100 hectares et ressemblait davantage à un parc anglais qu'à un espace funéraire. Après m'être garé sur le parking, je pris l'un des sentiers qui serpentait dans un paysage vallonné, ponctué de fontaines en marbre, de chapelles et de statues gracieuses et aériennes. Je n'avais plus mis les pieds ici depuis l'enterrement de ma mère, un jour gris et pluvieux de l'été 1984, et l'endroit avait beaucoup changé. Mais bientôt, en arrivant de l'autre côté du versant de la petite colline, je reconnus le lac dominé par un piton rocheux qui donnait au lieu des airs de tableau gothique. Je suivis un chemin forestier bordé de murets de pierres sèches. Il était 18 heures. Le soleil déclinait, nappant le paysage d'une belle lumière. Au milieu de la végétation luxuriante, quelques visiteurs venus dans l'intention première de se recueillir prolongeaient leur visite pour profiter du beau temps et de la légère brise qui faisait se trémousser les bosquets et les massifs de fleurs. À l'ombre des arbres centenaires, je parcourus les allées de gravier au milieu des tombes et des caveaux. À mon tour, je me laissai gagner par la longueur jusqu'à ce que j'aperçoive la pierre tombale de mon père. Frank Costello, 2 janvier 1942, 6 septembre 1993. J'ai été ce que vous êtes. Vous deviendrez ce que je suis. Mon père était mort la semaine dernière. Son inhumation était donc récente, 3 ou 4 jours. J'eus de la peine. Pas pour lui, non, mais plutôt pour tous ces moments que nous n'avions pas partagés. Je tentais néanmoins de trouver un souvenir heureux, mais rien ne vint, ce qui me rendit encore plus triste. Jusqu'au bout, j'avais espéré son amour. Je le revoyais débarquer chez moi ce fameux samedi matin et me faire son numéro de charme. La promesse d'une partie de pêche à la dorade, un après-midi complice entre un père et son fils. Pour m'attirer dans son piège et me traîner jusqu'au phare, il m'avait pris par les sentiments. J'avais été assez con pour plonger. Il y a un an, la dernière fois que nous nous étions parlé, c'était au téléphone. Ses ultimes mots à mon intention avaient été «
Tu m'emmerdes, Arthur !»«
Tu m'emmerdes, Arthur. » Un bon résumé de notre relation. Alors que j'essuyais une larme sur ma joue, je ne pus m'empêcher de me demander si j'aurais un enfant un jour. Vu la précarité de ma situation, cela paraissait compromis. Mais j'essayais néanmoins de m'imaginer avec un bambin en train de jouer au baseball ou d'aller le chercher à l'école. Là encore, aucune image ne se forma nettement dans mon esprit. Pas étonnant. J'avais des idées noires plein la tête. Et sans doute, pas assez d'amour à donner. Je me rapprochais de la dalle de marbre, souriant malgré moi à la lecture de l'épitaphe. Non, Franck, j'espère surtout ne jamais devenir comme toi. Regarde un peu dans quel merdier tu m'as foutu. Il me sembla entendre son rire porté par le vent, puis sa voix suffisante.
« Te l'avais dit, Arthur, il ne faut faire confiance à personne, pas même à ton père. »
Le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. Ce salopard m'avait prévenu, mais je m'étais cru plus malin et j'avais poussé cette putain de porte. J'étais dans une telle colère que je me mis à parler dans le vide.
« J'ai toujours fait sans toi, Franck, et cette fois encore, je vais m'en sortir seul. »
J'écartai les bras, offris mon visage aux rayons du soleil et, en signe de défi, lançai à mon père une ultime provocation.
« Tu vois, je suis vivant, et toi, tu es mort. Tu ne peux plus rien contre moi à présent. »
Mais, comme toujours, il eut le dernier mot.
« En es-tu si sûr, Arthur ?»
9. 23h58. Il était près de minuit lorsque j'arrivais à New York. Je m'étais arrêté en chemin pour acheter des vêtements à ma taille dans une boutique Gap de Boylston Street. Un pantalon chino, une chemise blanche et un blouson en toile. Cet excès de coquetterie n'en était pas un. J'avais besoin d'avoir une allure présentable pour mener à bien la suite de mon plan. Je garais mon ambulance dans une allée de l'East Village, entre la 3e rue et la 2e avenue, puis remontais jusqu'à St. Mark's Place. À cette heure, ce n'était pas l'endroit le plus tranquille de Manhattan. Une vibration malsaine électrisait l'air. Les trottoirs étaient jonchés de détritus, les immeubles décatis, investis par des squatteurs. Sur les escaliers des brownstones délabrés, on pouvait voir des corps avachis, immobiles, les yeux clos. Au pied des arbres qui bordaient les rues, on apercevait des seringues usagées et de vieux préservatifs. Des graffitis obscènes recouvraient la devanture des disquaires ou des ateliers de tatouage. Surtout, la drogue était partout. Les dealers qui quadrillaient le quartier distribuaient aux yeux de tous crack, héroïne et pilules. Une faune diverse, vieux punk, yuppie, junkie ayant déjà un pied dans la tombe, venait faire son marché avant de rentrer chez elle pour se défoncer ou d'aller faire la fête dans les clubs des alentours. Dans des lieux comme celui-là, New York était plus que jamais la ville dans laquelle tout pouvait arriver. Surtout le pire. 0h16. À l'angle de St. Mark's Place et de l'avenue A, je m'arrêtais devant le Frantic, le club dans lequel j'espérais trouver Elizabeth Ames. Baignant dans une chaleur d'étuve, l'endroit était bondé. Un duo guitare-basse massacrait un tube de Van Morrison, l'alcool coulait à flot. Sur la piste, les épaules s'entrechoquaient. Collés par la transpiration, les cheveux se mélangeaient. Mais le véritable spectacle était derrière le bar. Micro-short en jean, débardeur échancré, Stetson vissé sur la tête, les serveuses assuraient le show, jonglant avec les bouteilles, aguichant les clients pour les inciter à consommer. À tour de rôle, elles montaient même sur le comptoir pour se lancer dans des chorégraphies osées qui laissaient peu de place au doute. Pour travailler au Frantic, un 95C était plus utile que de savoir préparer une margarita ou un daiquiri. Je jouais des coudes pour atteindre le zinc et commandais un Jack Daniels à une rouquine pulpeuse dont les tatouages colorés descendaient jusqu'à la naissance des seins. C'était la plus âgée et la plus charnue des barmaids. Son chignon rond, dressé sur le haut de son crâne, me fit penser à un tableau de Toulouse-Lautrec, la goulue arrivant au Moulin Rouge. « Bonsoir, vous savez si Elisabeth est là ce soir ?»«
À l'autre bout du bar, chérie. Mais tu m'as l'air d'un bien trop gentil garçon pour avoir une chance avec Lisa. »«
Merci du conseil. » Je plissai les yeux et aperçus celle que je cherchais. « Lisa !»
Je lui fis un signe de la main comme si nous étions de vieux amis. J'étais à peu près certain qu'elle ne me reconnaîtrait pas. Du moins, je l'espérais. Notre furtive rencontre de ce matin n'avait duré que quelques secondes. Elisabeth m'avait donné un coup de poing et j'avais immédiatement porté les mains à mon visage pour me protéger. La jeune femme fronça les sourcils en s'avançant. Peut-être se souvenait-elle de moi, après tout. Inquiet, je pris les devants.
« Bonsoir, c'est vous qui êtes à la Juilliard School ?»
La référence à son école sembla la rassurer. Tout à coup, elle n'était plus seulement une serveuse embauchée dans un bar glauque pour sa plastique avantageuse, mais une étudiante dans une prestigieuse école d'art dramatique. « On se connaît ?» Je secouai la tête tout en composant mon sourire le plus engageant.
« Non, mais quelqu'un m'a conseillé de venir vous voir. »«
Qui ça ? David ?»
Je me souvins que c'était le prénom de l'homme à qui elle envoyait des lettres d'amour. Après une hésitation, je décidai de m'engouffrer dans la brèche.
« Ouais, David m'a dit que vous étiez une actrice formidable, et ça tombe bien parce que j'ai un rôle pour vous. »
Elle haussa les épaules.
« Arrêtez votre baratin. »
Je devinais qu'elle était partagée entre curiosité et méfiance. On avait dû lui faire le coup tant de fois.
« Attendez, je ne plaisante pas. Il y a beaucoup de clients, je dois reprendre mon travail. »
Je ne la laissais pas s'éloigner.
« J'ai vraiment un rôle pour vous. »
Elle leva les yeux au ciel.
« Quel genre de rôle ?»
« Un rôle un peu spécial, » concédai-je.
« Laissez tomber, je ne tourne pas de porno, » soupira-t-elle.
« Vous n'y êtes pas du tout. C'est un rôle tout ce qu'il y a de plus, habillé, un rôle d'infirmière. »«
Une infirmière qui couche avec ses patients. »
La musique était forte. Il fallait presque hurler pour se faire entendre.
« Non !»«
Qui couche avec un médecin, alors ?»«
Non, elle ne couche avec personne. Vous êtes obsédé, ma parole. C'est vous qui êtes obsédé. Moi ? Vous, les hommes ?»
Je secouai la tête, prenant un air outré. Elle ne put réprimer un sourire.
Je suis désolé, j'ai passé une mauvaise journée. Un taré est entré chez moi ce matin et a essayé de m'agresser pendant que j'étais sous la douche. Allez, amusez-vous bien quand même,
me dit-elle en tournant les talons. J'essayais de la retenir, mais déjà elle repartait à l'autre bout du comptoir, happée par les clients, servant une nouvelle tournée de shots de tequila à des types de Wall Street venus s'encanailler dans l'East Side. La goulue s'approcha de moi et me proposa un autre whisky.
Je te l'avais dit, petit mec. Lisa, c'est pas une fille pour toi.
Je cherche pas à la draguer.
À d'autres, mon canard. Lisa, tout le monde cherche à la draguer.
Je sortais une cigarette. Elle craqua une allumette pour me donner du feu.
Merci. C'est qui, David ? Son mec ?
Ouais, c'est un peintre.
Elle fit une moue entre le scepticisme et le dégoût et ajouta
« Enfin, si on peut appeler ça de la peinture. En tout cas, on peut dire qu'elle est accro à lui. Et cet abruti, lui, est accro à l'héros. »
Je me rappelais tout à coup les découvertes bancaires.
Il lui tape du fric, n'est-ce pas ?
Comment tu sais ça, toi ?
J'éludais la question en recrachant une bouffée de fumée. Puis j'essayais de contourner le bar pour capter de nouveau l'attention de Lisa, mais une foule de plus en plus dense s'agglutinait autour du comptoir.
La goulue avait déjà commencé à remplir d'autres verres. Avant de m'abandonner, elle me donna un tuyau. « La petite en a encore pour une heure. Si tu veux lui parler au calme, va l'attendre chez D'Amato. »«
D'Amato ?»«
C'est une pizzeria ouverte toute la nuit, à l'angle de la 10e et de Stuyvesant Street. »«
Vous êtes certaine qu'elle viendra ?»
Elle me chassa d'un revers de main. « Va l'attendre là-bas, je te dis. »
1h36. Depuis 1931, le monde a changé, mais nos pizzas sont restées les mêmes. Encadrée au-dessus de la caisse enregistreuse, la devise de D'Amato's Pizza insistait sur l'ancienneté et l'authenticité de l'établissement, un des derniers de la ville à utiliser un four à bois. C'était un petit restaurant au décor suranné, nappe à carreaux rouges et blancs, chaises bancales de trattoria, lampe à abat-jour déglinguée, mais à l'atmosphère chaleureuse. Une odeur de tomate et de basilic vous mettait en appétit dès que vous passiez le seuil de la porte. Depuis une heure que j'étais attablé, j'avais eu le temps de dévorer une pizza à la pâte croustillante, arrosée de plusieurs verres de Valpolicella. Comme l'endroit était minuscule, la patronne, aimable comme une porte de prison, se faisait insistante pour que les clients ne s'attardent pas dans l'établissement une fois leur repas terminé. Pour conserver ma table, j'avais dû commander une bouteille de bière. On venait de me l'apporter lorsque Lisa entra dans le restaurant. C'était visiblement inhabitué. Elle salua la patronne et les deux pizzaiolos par leur prénom.
« Qu'est-ce que vous faites là ? » lança-t-elle en m'apercevant. « Vous me suivez ?»«
Si je peux me permettre, c'est plutôt vous qui me suivez. Je suis ici depuis une heure, » tentai-je pour détendre l'atmosphère.
« Et vous vous croyez malin ? » fit-elle en s'asseyant devant moi.
Elle avait changé de tenue et portait à présent des collants sous son short en jean, une petite veste Spencer piquée de broches à tête de mort et des bottines cloutées. Couvrant ses mains, des mitaines en dentelle blanche. Autour de ses poignets, des dizaines de fins bracelets en caoutchouc et autour de son cou, un chapelet porté en sautoir. À ses oreilles, des boucles en forme de crucifix. Un joli clone de Madonna époque Marie-Paul. Elle commanda un verre de root beer et de fines tranches de pain pizza parfumées aux herbes. Je lui laissai l'initiative de la conversation.
Je ne connais même pas votre nom.
Arthur Costello, je suis médecin urgentiste à Boston.
Cette proposition drôle, c'est de la foutaise, hein?
C'est très sérieux, au contraire, mais il me faut une réponse tout de suite.
C'est pour un film ou une pièce de théâtre?
Une pièce de théâtre, qui ne connaîtra qu'une seule représentation.
Écrite par qui?
Par personne, justement. Je vous demande d'improviser, de vous adapter à la situation.
Vous vous foutez de moi?
J'imagine qu'on vous apprend l'improvisation dans votre école d'art dramatique.
Elle secoua la tête.
Moi, ce que j'aime, ce sont les beaux textes, les dialogues bien écrits, les mots d'auteur. Quand un acteur improvise, ça tombe souvent à plat.
Parfois, mais pas toujours. Certaines des plus belles scènes de cinéma se sont improvisées. Le monologue devant le miroir de Robert De Niro dans Taxi Driver. La scène déchirante de la crème glacée dans Kramer contre Kramer. Vous savez, lorsque Dustin Hoffman prévient son fils. « Billy, si tu t'avises de porter cette cuillère de glace à ta bouche,
tu auras de très très gros problèmes. » Je connais ce film par cœur. Cette scène n'est pas improvisée.
Elle avait terminé la réplique en plantant ses yeux dans les miens, et l'intensité de son regard pétrole ne me laissa pas indifférent.
« Je suis certain qu'elle l'est, » dis-je finalement.
« Admettons, » répondit-elle en haussant les épaules. « Et ça se jouerait dans quel théâtre ?»«
Le théâtre de la vie. Le monde entier est un théâtre et... »«
Tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, je sais. »
Moi aussi, j'ai révisé mes fiches avant de venir. Bon, arrêtez de tourner autour du pot, c'est quoi le plan ? Vous avez raison, je vais être franc. La vérité, c'est que j'essaye de faire évader mon grand-père d'un hôpital psychiatrique. Elle leva les yeux au ciel sans chercher à m'interrompre pour autant.
Vous voulez connaître le plan ? Le voici. Demain matin, à 7h précise, vous entrerez avec moi au Blackwell Hospital habillé en infirmière. Mon grand-père aura simulé une crise cardiaque. On le prend en charge sur une civière, on le met dans une ambulance et on se tire le plus vite possible. Vous serez de retour chez vous une demi-heure plus tard. Vous empocherez le pognon et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. »
Elle laissa passer quelques secondes, prit une gorgée de root beer, puis éclata de rire.
« Vous devez carburer à de drôles de substances ?»
Je la dévisageais avec gravité.
« Je suis très sérieux et totalement clean !»
Elle cessa de rire. Ses cheveux blonds s'étaient emmêlés. Elle les repoussa et les noua avec un chouchou de tissu sombre.
« Ce grand-père, il existe vraiment ?»
Je hochai la tête.
« Il s'appelle Sullivan Costello. »«
Et pourquoi cherchez-vous à le faire évader ?»«
Pour la seule raison qui vaille. »«
Vous pensez qu'il n'est pas fou ?» devina-t-elle.
« Vous avez tout compris. »«
Mais pourquoi moi ? On ne se connaît pas. Vous ne pouvez pas demander ça à un de vos amis ?
J'ai besoin d'une professionnelle. Et puis je n'ai pas d'amis. Pas ce genre-là, en tout cas.
Le genre qu'on peut appeler à 3h du mat pour qu'il nous aide à nous débarrasser d'un cadavre.
Cette fois, c'est moi qui lui souris.
Désolé, mais je ne peux pas vous suivre dans cette galère, dit-elle en mordant dans un morceau de pain pizza.
Je lui tendis l'enveloppe qui contenait les 8 000 $.
C'est tout ce que je possède, dis-je, conscient que j'abattais là ma dernière carte.
Elle ouvrit la pochette en papier kraft et regarda longuement la liasse de billets de 50 $.
Ses pupilles scintillaient, mais pas de cupidité. Je savais qu'elle voyait dans cet argent un ballon d'oxygène,
le règlement de plusieurs mois de loyer et le remboursement de son découvert bancaire. Moins de nuits de galère à faire la serveuse dans des bouches comme le Frantic, en se faisant reluquer comme une go-go dancer par des braillards à moitié bourrés. Plus de temps pour rester chez soi à lire des pièces de théâtre de Sam Shepard et des romans de John Irving, pelotonné sur son canapé avec Remington le chat, une tasse d'Earl Grey à portée de main. Elle hésita longtemps, me regardant avec ses yeux brillants de fatigue, se demandant qui j'étais vraiment, essayant de deviner si un diable ne se cachait pas derrière ma bonne tête. Elle avait 20 ans, elle était jeune, un peu crâneuse, un peu fierotte, un peu perdue. Une seconde, un instantané traversa mon esprit. L'image furtive d'une Elisabeth plus âgée, plus assurée, plus proche de moi, mais tourmentée par d'autres problèmes. Puis la vision s'estompa et disparut.
« Tout ça est beaucoup trop risqué, »
trancha-t-elle en glissant l'enveloppe refermée dans ma direction. « Je ne vous demande pas de braquer une banque.
C'est trop dangereux, je vous dis.
Pas plus dangereux que de partager sa vie avec un drogué ?» Ma réponse avait fusé, brutale, intempestive. Elisabeth me transperça du regard.
« Qui êtes-vous pour juger les gens ?»«
C'était pas très malin de vous endetter pour payer la dope de votre mec. »«
Vous ne pouvez pas comprendre. David en a besoin pour peindre. »
Et la bonne excuse, je suis médecin, et je peux vous assurer que la meilleure chose qui pourrait arriver à votre artiste, c'est de se sevrer.
Sérieusement, pourquoi vous vous accrochez à lui ?
Parce que je l'aime, répondit-elle avec tout le mépris dont elle était capable. Elle était au bord des larmes. Son menton se mit à trembler d'une rage qu'elle ne put bientôt plus contenir.
Et je t'emmerde, connard !
Cria-t-elle en me jetant son verre de root beer au visage. Elle se leva en renversant sa chaise et quitta le restaurant. Je ne pouvais pas gagner à tous les coups. 2h21. Lorsque je retrouvai mon ambulance, ses deux rétroviseurs extérieurs étaient cassés. Visiblement, un junkie avait essayé de fracturer le véhicule, pour y piquer du matériel médical, ou mieux, des médocs. Mais il ne devait pas avoir l'esprit suffisamment clair, car le van avait résisté à ses assauts. De rage, le camé avait dû se venger sur les rétros, le jeu du quartier. Au volant de mon bolide, je quittais l'East Village, remontant vers Gramercy, Murray Hill et Midtown. Se rendre à Roosevelt Island en voiture nécessitait de faire un long détour par le Queens pour ensuite revenir sur ses pas et prendre l'embranchement qui menait au Roosevelt Island Bridge, seule voie d'accès pour les véhicules à moteur. J'arrivais au pied du pont à 3h du matin. Je traversai le détroit et garai l'ambulance à proximité de l'hôpital sur un parking grillagé à ciel ouvert qui faisait face à la skyline. Des vieux standards de jazz passaient à la radio. Je baissai la vitre du van. Bercé par le sax langoureux de Stan Getz, je fumais une cigarette en regardant la ligne de gratte-ciel de l'autre côté de la rivière. On était encore à Manhattan et déjà à distance. Les vibrations, les bourdonnements, les lumières de la ville n'étaient qu'à quelques dizaines de mètres, mais semblaient pourtant hors d'atteinte. Si loin, si proche. Je trouvais dans cette vue un écho troublant à ce que je vivais. J'étais à la fois dans ma vie et hors de ma vie, à la fois moi et hors de moi. Je jetai mon mégot sur le bitume, me laissai aller contre l'appui-tête et fermai les yeux, grappillant à la nuit quelques heures de mauvais sommeil.